Amen. Alors, je lis pour vous notre texte une 31e fois aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est une 31e fois qu'on le lit, peut-être un peu plus même depuis le début de l'année. Mais c'est l'occasion pour nous de plonger nos regards dans un texte qui est important pour cette année de jubilé. Alors, Ésaïe 61, le verset 1 et le début du verset 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et voilà. Donc, et la phrase que nous étudions cette semaine, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. Alors hier, on a revu la notion de shalak, qui veut dire envoyer. Et aujourd'hui, on passe au terme proclamer, donc faire la proclamation d'une chose. Pour ceux qui prennent des notes, c'est un terme qu'on a déjà vu, notamment dans le psaume 91, la dernière semaine du psaume 91, où je vous ai dit, il y a un mot en particulier qui est devenu important dans ma vie. Ça fait déjà quelques années, c'est le terme kara, Q-A-R-A. Je répète, kara, Q-A-R-A. On l'avait vu à ce moment-là sous une autre déclinaison. Ici, c'est le terme kara qui est traduit par proclamer. En d'autres circonstances, le terme kara est traduit par invocation ou invoquer. Donc, on va revenir sur des données qu'on a déjà vues, sur des synonymes qu'on a déjà vus, donc il y a quelques semaines, mais adaptés donc au texte et au contexte de cette semaine. Alors, pour ceux qui prennent des notes, proclamer, kara, Q-A-R-A, qui apparaît 735 fois dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, simplement vous rappeler que l'Ancien Testament, donc la Bible est composée de deux sections, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien étant avant la naissance de Jésus, le Nouveau Testament étant à partir de la naissance de Jésus et tout le temps qui s'ensuit jusqu'à l'Apocalypse. Et donc l'Ancien Testament est écrit principalement en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grande majorité en grec et une petite partie, le livre aux Hébreux, qui est écrit en araméen. Mais comme on étudie durant la semaine le texte de l'Ancien Testament, donc les mots qu'on utilise ou qu'on définit durant la semaine, ce sont des mots donc en hébreu. Donc proclamer, kara, 735 fois, et je vous donne tout de suite les mots qu'on va étudier. Le premier mot, appeler, et je fais ça parce que je sais que plusieurs d'entre vous prenez des notes, donc appeler, deuxième mot, deuxième définition ou déclinaison, crier, troisième mot, nommer, quatrième mot, prêcher, cinquième mot, invoquer, et le sixième, c'est une expression que je garde pour la toute fin, comme j'avais fait dans le psaume 91. Et ceux qui s'en rappellent peuvent déjà l'écrire, mais je vous dis l'expression à la toute fin de notre leçon. Donc, premier mot, proclamer kara 735 fois. On se rappelle, et donc la première traduction, appeler. Donc, il m'a envoyé pour appeler les captifs à la liberté, si on le traduisait avec le terme appeler. Donc appeler, c'est faire, lancer une invitation à quitter la captivité et à se rendre vers la liberté. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on vous rappelle que quand on parle de captivité ici, on parle essentiellement d'une question spirituelle. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes tous dans les liens du péché de par notre nature pécheresse. Avec le péché d'Adam et Ève, le péché originel, toute la descendance humaine a été contaminée et enchaînée par ces liens du péché. Donc, la première chose à laquelle on est envoyé ou vers laquelle on est envoyé pour transmettre une invitation à quitter la captivité et à se rendre vers la liberté. Étant des ambassadeurs, c'est un peu comme, puisque la Bible dans le Nouveau Testament nous dit que nous remplissons la fonction d'ambassadeur, c'est un peu comme si un ambassadeur allait se promener dans le territoire où il est affecté, donc à l'extérieur de ses frontières, qu'il se présente donc en terre étrangère, et il donne aux gens une invitation leur permettant d'accéder à une nouvelle terre, à un nouveau territoire, ou au territoire, au royaume que cet ambassadeur représente. Donc, ton mandat et mon mandat, c'est effectivement d'inviter notre prochain, d'inviter ceux qui nous entourent à quitter le péché et à s'approcher de Dieu, se faisant à connaître la liberté, le fait d'être affranchi des liens du péché. Le deuxième terme, crier. Et dans cette interprétation ou dans cette image du cri, on parle d'un cri d'alarme qui avertit sur l'état même de la captivité. Soyons bien clairs, et on en parlait dimanche matin où on se disait que le péché a cette faculté de nous rendre amorphes, de nous endormir, de nous rendre amnésiques par rapport à notre propre condition de pécheur. Alors aujourd'hui, il est de la responsabilité de l'Église, parce que personne d'autre le fera, d'avertir notre génération, d'avertir nos contemporains de la situation alarmante dans laquelle ils sont. C'est un peu comme la sentinelle, et la Bible nous en parle dans plusieurs passages, notamment dans Ézéchiel, dans Jérémie, dans Ésaïe, où on nous parle que nous sommes des sentinelles. Et on nous dit que la sentinelle qui voit le danger arriver se doit de souffler dans sa trompette pour avertir de l'imminence d'un danger. Et on nous dit que la sentinelle qui ne remplirait pas son travail, la mort de ses concitoyens parce qu'elle n'aurait pas averti ou il n'aurait pas averti du danger reviendrait tomber sur sa tête. Ça veut dire que je suis responsable de la mort de ceux que je n'avertis pas comme quoi ils se précipitent aveuglément vers un danger et vers une mort éternelle et spirituelle. Donc, il est de ta responsabilité, effectivement, de lancer ce cri d'alarme. Si l'Église ne le fait pas, personne ne le fera. Si les croyants ne le font pas, personne ne le fera. Et je vous rappellerai, et on va y revenir tout à l'heure, je vous rappellerai le texte qu'on a vu aussi dimanche, où Paul va dire « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas le danger qui guette le pécheur et le salut qui est accessible au pécheur. » Paul va dire « Malheur à moi ». Ça veut dire que le malheur doit s'abattre sur moi si je ne fais pas mon travail de porte-voix et si je ne fais pas mon travail de sentinelle. Donc la sentinelle va pousser ce cri qui est très fort, va souffler dans sa trompette un son particulier, un appel particulier qui explique aux gens qu'ils sont en danger. Hier, je regardais un reportage où au lieu d'être la trompette, c'était le batteur de tambour. Et il expliquait que dans une armée autrefois, lorsqu'on jouait le tambour, on savait si le jeu de tambour, le son qui était émis ou le rythme qui était tapé, si ça voulait dire, bon, c'est le temps de ramener vos gamelles parce que c'est le déjeuner qui est servi, ou c'est, voilà, c'est l'heure du couvre-feu de changement de garde, ou si ça voulait dire, voilà, un danger qui nous guette, on vient d'être informé que l'ennemi s'approche. Donc, chaque jeu du tambour avait cette faculté d'avertir la populace de ce qui se passait. Idem pour la sentinelle avec la trompette. Il y avait un jeu de trompette, il y avait une mélodie qui s'attachait à chacune circonstances de la vie de la populace, de la vie de la petite ville. Et lorsqu'il y avait un danger, lorsqu'on voyait l'ennemi s'approcher, on jouait de la trompette d'une certaine façon, et tous les hommes, toutes les femmes savaient qu'ils devaient soit aller se mettre en lieu sûr, pour ceux qui étaient appelés à se battre, savaient qu'ils devaient prendre leur armure, leur arme, et aller au front et au combat. Donc, il est aussi de notre devoir pour nous de crier, de faire ce travail de sentinelle, non seulement qui avise le pécheur du péché, de la condamnation imminente qui vient avec le péché, mais de surcroît à cela, probablement que la sentinelle est aussi la personne qui rappelle aux soldats d'être sur leur garde, qui rappelle aux soldats aussi d'être prêt à affronter leur ennemi. Donc appeler, crier. Le troisième terme pour kara, nommer. Et lorsqu'on parle ici de nommer, on parle ici de dire les choses par leur vrai nom, de dire les choses clairement. Alors lorsqu'on parle de nommer, on veut dire une explication claire de l'état réel de captivité. On l'a dit tout à l'heure, celui qui est captif n'est peut-être pas au courant qu'il est captif, dans le sens où le péché est devenu tellement usuel, tellement une norme et une normalité, que à moins que l'Église n'avertisse que nous sommes effectivement condamnés par notre péché et que nous avons tous un rendez-vous fixé avec Dieu qui chaque jour se rapproche davantage, nous devons donc dire clairement à la populace, regarde, selon les barèmes de Dieu, nous sommes tous des pécheurs et nous sommes tous condamnés et nous sommes tous condamnables justement. Alors voilà ton état réel devant Dieu. Trop souvent, le diable a introduit des doctrines de démons qui endorment les gens, qui leur permettent de se satisfaire d'un état pécheur en croyant qu'ils ont été justifiés, notamment par les bonnes actions. Quelqu'un va faire une foule de bonnes actions en pensant que ça le justifie, que cela peut le sauver. La Bible est très claire. La seule chose qui sauve, c'est la foi dans la mission, la foi dans l'action du Messie qu'est Jésus. Donc la foi en la mort et en la résurrection de Jésus. Les actions ne peuvent pas nous sauver. C'est bien de faire des bonnes actions. La Bible nous dit de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, de l'indigent. Donc assurément, faire des bonnes actions envers notre prochain est une chose merveilleuse et une chose qui devrait accompagner la vie de tout chrétien, la vie de tout croyant. Ça serait un autre débat et un autre enseignement, mais les bonnes actions devraient nous accompagner. Mais le message qui doit être donné, la chose qui doit être nommée, c'est que péché est péché. Et ne pas dire « oui, mais ça, c'était un texte ancien et tout ça ». Si la définition du péché changeait selon les époques, il y aurait franchement une injustice de la part de Dieu. Ça veut dire que des péchés qu'il aurait sanctionnés il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, ces péchés-là aujourd'hui pourraient être normalisés et là, on les accepterait. Ce qui était péché au tout début de la création humaine est toujours péché aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une justice dans le jugement du péché, dans la condamnation du péché, de même qu'il ne peut pas y avoir un salut qui est proportionnel aux facultés de chacun. Et le salut par les œuvres serait tout à fait injuste. Si on disait, voici, c'est à travers vos œuvres que vous serez sauvés, donc si vous en faites une certaine quantité, vous allez atteindre un salut. C'est totalement injuste parce que les actions pour les uns sont plus demandantes que pour les autres. Si l'action c'était de boire un verre d'eau, il y en a qui aiment beaucoup l'eau et il y en a qui aiment pas du tout l'eau. Alors, celui qui est né en n'aimant pas l'eau, ça serait beaucoup plus compliqué pour lui d'être sauvé que celui qui se délecte d'un verre d'eau, qu'il soit frais ou qu'il soit chaud, il aime l'eau et il en boit. Donc, le salut par les œuvres est totalement, mais totalement injuste, de par le fait que chacun d'entre nous sommes différents et que chacun d'entre nous avons des forces et des faiblesses. La seule chose qui peut être juste, c'est un salut qui est donné par une seule et même personne pour l'ensemble de l'humanité, en ayant tous et chacun un seul et même recours, la foi dans l'acte que Jésus a accompli. Il n'y a pas de salut plus juste. C'est injuste pour Jésus dans le sens où il n'avait pas péché, où il ne méritait pas la mort, mais pour l'ensemble des bénéficiaires et l'ensemble des candidats au salut, c'est tout à fait juste parce qu'on demande un seul et même critère pour chacun d'entre nous, la foi dans le Messie, dans le Seigneur, dans le Sauveur qui a été donné à l'humanité, Christ Jésus. Donc, Kara, nommer, expliquer clairement les choses et demander à Dieu qu'il nous donne cette facilité aussi d'expliquer avec clarté l'état réel de captivité, mais aussi, et là on passe au prochain terme, prêcher. Donc il y avait appeler, crier, nommer, prêcher. Et contrairement à nommer, qui expliquait clairement l'état de pécheur, prêcher plutôt, va nous dire expliquer le plan de Dieu face à la captivité. Nommer, c'était de dire à tout le monde, ben regardez, on est tous pécheurs, nous avons tous besoin d'un sauveur. Prêcher, c'est indiquer aux gens comment quitter ce statut de pécheur, ce statut de condamné, de captif, pour se rendre vers la liberté. Donc, c'est expliquer effectivement l'amour merveilleux de Dieu, expliquer le salut qui a été octroyé à quiconque croirait à travers la mort et la résurrection de salut. De Jésus plutôt. Et c'est important pour nous ce matin de retourner à ces vérités. Il y a un terme que j'utilisais dimanche que je vous ai expliqué qui était le... Je reprends le terme. Où est-ce que j'ai ça? Je l'ai perdu. Il y avait un terme qui voulait dire rester, pourquoi je l'ai perdu, je ne sais pas, en tout cas, qui voulait dire se conformer ou rester avec les bases même importantes de l'Évangile. Donc, ne pas s'étendre sur un tas de choses qui ne sont pas nécessairement matières à salut, mais lorsque nous apportons le message, lorsque nous prêchons le plan de Dieu, retourner à la base. Nous sommes tous pécheurs, il n'y a qu'un sauveur. Ce sauveur t'a aimé, ce sauveur est mort pour toi, ce sauveur est ressuscité pour t'accorder à toi aussi le salut. Quelles que soient tes fautes, quelle que soit l'immensité de ton iniquité, il t'a assez aimé pour mourir pour toi. Donc, prêcher. Cinquième terme, invoquer. Invoquer veut dire... Et ça, c'est une notion qu'on avait parlé lorsqu'on a parlé effectivement du terme Kara il y a quelques semaines. C'était invoquer le nom du Seigneur. Invoquer, c'est se placer sous la couverture du Seigneur. Invoquer, c'est un terme juridique, un terme légal qui fait que je me place sous un article, je me place sous la protection d'un fait de loi, je me place sous la protection de quelqu'un qui est en autorité et en puissance pour me protéger. Je place ma vie sous la tutelle, sous la couverture de quelqu'un. Et lorsqu'on parle d'invoquer, on parle, oui, effectivement, de participer à la mise en liberté et à la mise en sécurité du captif. Rappelons-nous, le captif est lié dans des chaînes, est lié avec un boulet au pied, et notre mission, Dieu nous envoie pour les détacher et les amener dans le royaume de Dieu, cette brebis qui était perdue, pour l'amener dans la bergerie de Dieu. Et ce faisant, nous lui enseignons, nous lui montrons aussi comment se placer sous la couverture de Dieu. Ça va au-delà que strictement prêcher, au-delà que strictement annoncer. Il y a une question de comprendre que nous travaillons à la sécurité, nous travaillons au salut des gens qui nous entourent. Chacun d'entre nous, on ne va pas souhaiter que la chose puisse nécessairement se passer, mais je pense que chacun d'entre nous aimerait accomplir sa vie ici-bas sur Terre en disant qu'il a au moins sauvé quelques vies. Que ce soit parce que j'ai été médecin, que ce soit parce que j'ai été un sauveteur, que ce soit parce qu'à un moment donné, j'ai pris un cours de secouriste et j'ai été placé dans une situation particulière où j'ai dû intervenir avec ces notions. Je pense qu'il y a quelque chose de valorisant. Il y a quelque chose qui donne un sentiment d'accomplissement lorsqu'effectivement on intervient dans la vie physique de quelqu'un pour lui sauver cette même vie. Il est encore plus merveilleux, encore plus grand lorsqu'on regarde avec les yeux qui comprennent et qui saisissent l'éternité, de savoir que tu as un rôle à jouer dans le salut, dans le sauvetage, dans la vie éternelle de ton prochain, des personnes qui t'entourent. Il y a quelque chose d'important. C'est un acte de bravoure, c'est un acte d'altruisme profond. Quelqu'un qui sauve la vie d'une autre personne est considéré comme un héros. Et cette fois-ci, quelqu'un qui fait effectivement des actes héroïques et non pas le héros qu'on a parlé la dimanche dernier qui proclamait un message. Donc, tu as besoin aujourd'hui encore d'être un héros, quelqu'un où tu peux encore aujourd'hui être un héros, quelqu'un qui participe au salut, quelqu'un qui participe au secours qui est apporté à quelqu'un qui est captif et en voie de mourir pour l'éternité. Donc, invoquer. Les cinq points qu'on a vus jusqu'à présent, appeler, donc lancer une invitation, crier, faire l'œuvre de sentinelle qui avertit de l'état de danger qui guette la personne en captivité, nommer, qui donne une explication claire de l'état de captivité de notre prochain, prêcher, donc qui donne une explication claire du plan de Dieu par rapport à celui qui est captif. Invoquer, donc qui est partie prenante, qui est participant à la mise en liberté et à la mise en sécurité du captif. Dernier point, le terme kara, dans certaines traductions, va être mentionné avec des images. Je vous ai déjà expliqué que en grec et en hébreu, très souvent, les mots sont des images. Je vous donne toujours l'exemple de être en colère en hébreu. Lorsqu'on parle d'être en colère, l'image, le mot, si on le traduisait textuellement, voudrait dire avoir un grand nez. Et c'est l'idée selon laquelle, quand on est fâché, on respire fort du nez. Lorsqu'on est énervé, ça vient de là le terme énervé. Lorsqu'on est énervé, ben nos nerfs, oui, sont à fleur de peau, mais de surcroît à cela, on respire fort du nez. Donc, lorsque on parle de kara, on parle comme image importante, cri d'une bête. Et il y a certaines traductions, certaines langues dans lesquelles sont traduits les textes bibliques, où effectivement, lorsqu'on va avoir kara, on va avoir la traduction cri d'une bête, notamment dans plusieurs traductions germaniques ou langues qui sont proches de l'allemand. C'est effectivement l'idée qu'on va faire ressortir, cri d'une bête. Et le cri d'une bête, c'est pas l'aboiement. Néma aboie, mais lorsqu'elle aboie, c'est pas nécessairement que c'est quelque chose qui la perturbe énormément. Elle aboie parfois parce qu'elle est contente, parfois parce qu'elle veut attirer l'attention. Mais le cri que Néma va faire, ben ça va se passer à l'occasion, et c'est arrivé il y a plusieurs années déjà. On n'était pas habitué à avoir un chien. On la promenait Et malheureusement, j'ai marché à quelques reprises sur sa patte. Et lorsque elle a mal, je me rappelle d'une fois où elle a eu une douleur terrible. On a pensé qu'elle avait la jambe cachée, cassée et tout ça. On l'a amenée au vétérinaire. Mon épouse s'en rappelle encore. Elle était en pleurs au comptoir du vétérinaire quand moi, j'étais supposé prendre Néma de la voiture et l'amener. Et quand Emma est arrivée, ben, elle avait plus mal. Juste l'idée d'être chez le vétérinaire, était toute contente et elle avait plus mal. Mais le cri que Emma avait fait en rentrant dans la maison parce qu'elle avait mal à une patte, et pour la petite information, c'était juste un muscle qui était froissé. Donc ce cri-là était intense. Si intense que même les voisins nous en ont parlé en disant, mais on se demandait ce qui se passait. Parce qu'ils connaissaient Néma, ils aiment Néma. Ils disaient, mais on a entendu le cri, puis on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc, le cri de Néma, c'est lorsqu'il y a quelque chose d'important, d'intense qui se passe. Notre appel vers les gens qui sont captifs, notre travail, notre message qu'on doit transmettre est un message qui doit sortir du plus profond de nos tripes. Excusez-moi pour l'expression, mais qui vient du plus profond de notre intérieur. Il faut qu'il y ait une passion qui se manifeste à travers notre message. Il faut qu'on soit capable de communiquer ce message de l'Évangile comme le message le plus important qui n'ait jamais été donné à l'homme. Il n'y a pas un avertissement, il n'y a pas un message plus important que celui-ci. Il y a des causes qui sont très nobles à travers la planète. L'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les races. Il y a différentes causes comme ça qui ont rassemblé de grands tribuns, de grands orateurs qui ont parlé de ces choses-là avec énormément de passion. On se rappelle encore aujourd'hui le discours de Martin Luther King qui disait « I have a dream », « J'ai un rêve ». Et il parlait du tréfonds, de son tréfonds. Il parlait avec toute sa passion. Lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle du message de l'Évangile, ce message-là devrait passer aussi avec énormément de passion. Tu ne peux pas prêcher l'Évangile tout simplement en parlant comme si c'était la lecture de l'annuaire téléphonique que tu étais en train de faire, ou comme si c'était les petites annonces de ton quotidien que tu étais en train de lire. Le message de l'Évangile doit venir chercher tout ce que tu as à l'intérieur. Je vous dirais très franchement, le dimanche matin est la partie de la semaine où je me sens physiquement le mieux. Et j'en profite donc pour donner tout ce que j'ai suite à la maladie, suite à l'état physique qui s'ensuit. Le dimanche matin est le moment où j'ai le plus d'énergie. Mais je vous dirais que même après les bénédictions matinales, et ça c'est le cas depuis quelques semaines, après les bénédictions matinales, je dois prendre un moment pour me reposer parce que je me vide. Vous savez que je vous ai fait la promesse que j'allais prêcher et que j'allais enseigner et qu'à chaque fois que j'allais venir devant vous, j'allais le faire comme si c'était la dernière fois où j'avais l'occasion d'enseigner. Alors quand je vous enseigne le matin lors de la bénédiction matinale, je veux avoir le sentiment, après avoir enseigné, que si je devais partir dans les secondes qui suivent, si je n'avais pas d'autre occasion ultérieure d'enseigner, que j'ai accompli tout ce que je devais accomplir. Et ce matin, j'ai ce sentiment. Je vous ai parlé comme quoi le message de l'Évangile doit être présenté, que c'est un devoir, que c'est un mandat, que c'est un appel pour tous. Il me reste une chose à vous dire ce matin, et j'y pensais depuis hier, c'est important. Parmi ceux qui nous écoutent, certains d'entre vous ont effectivement connu Jésus. Certains d'entre vous ont un jour pris la décision que Jésus soit effectivement leur Seigneur. Vous avez donné votre vie à Jésus. Mais pour X raisons, à un moment donné, vous vous en êtes détourné. J'aimerais être très clair avec toi. Si tu me permets, si vous me permettez de vous adresser la parole ce matin. Tu ne peux pas aujourd'hui dire que ce que tu as reconnu hier comme étant vrai, est maintenant faux. Tu sais très bien que dans l'état où tu es aujourd'hui, tu as encore besoin d'un sauveur. Tu t'es éloigné et tu n'as pas encore pris la décision ferme, définitive, de retourner à Christ. J'aimerais te dire que si ce n'est pas fait, ta vie est en danger. Ta vie éternelle est en danger. J'aimerais te rappeler que tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Tu ne peux pas être sauvé par les bonnes actions que tu fais. Ça, tu le sais déjà. Tu ne peux pas être sauvé par la foi et le salut que ton père ou ta mère a pour elle-même ou lui-même. Tu ne peux pas être sauvé par le fait que tu as fréquenté pendant un certain temps l'Église. Fréquenter l'Église ne sauve pas. Fréquenter l'Église fait partie de la vie du croyant, mais ce n'est pas ça qui sauve. Et tu sais ce qui sauve. Christ et Christ uniquement. Alors ce matin, j'aimerais prier avec toi. Si tu t'es éloigné de Jésus, c'est le jour où tu dois prendre une décision. Jusqu'à il y a 5 ans, j'étais convaincu que j'allais vivre jusqu'à 95 ans. Je disais à la blague, je veux vivre jusqu'à 95 ans. Je veux qu'on m'enterre et qu'on me pleure pendant 3 jours. Et puis après ça, le Seigneur peut revenir comme il veut. Quand la maladie est venue frapper, j'avais 43 ans et les médecins ne savaient pas ce qui allait se passer. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis en rémission. Il y a quelques jours, c'était le 27 janvier, je célébrais 5 ans où j'ai eu une grosse opération. Dans quelques mois, je célébrerai 5 ans de rémission. Est-ce que je vais vivre jusqu'à 95 ans? Je n'en ai aucune idée. La chose qui a changé dans ma vie, c'est que je sais que je peux mourir aujourd'hui. Je sais que la vie ne tient qu'à un petit fil. Que ce soit par la maladie ou autre chose, ta vie ne tient qu'à un petit fil. Ta vie est forte aujourd'hui et dans un instant, tu peux être rentré dans l'éternité. Alors je serais mal envers Dieu si je ne faisais pas l'œuvre d'une sentinelle pour te dire « Tu dois mettre ta vie en règle avec Dieu. Tu dois prendre une décision à son égard. » Alors je prie avec toi ce matin. Je t'invite, si c'est ta décision, tout simplement de répéter ces quelques phrases avec moi. Comme prière, c'est simplement pour te donner une petite piste au niveau de la prière. Alors répète après moi si c'est ta décision aujourd'hui. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je sais que je suis pécheur ou pécheresse. Et je sais que je suis en danger. Ma vie n'a pas été placée entre tes mains. Ou peut-être même que j'ai repris ma vie entre mes mains. Aujourd'hui, j'entends ton message. Aujourd'hui, je comprends que je suis en danger. Alors je te demande pardon pour mon péché. Pardon pour une vie que j'ai récupérée. Pardon pour une vie que j'ai reprise de tes mains. Et pardon pour une vie qui m'a menée loin de toi. Aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains. Et je veux redire ou dire de nouveau que non seulement je veux que tu sois mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. J'abandonne tout ce que je suis à toi. Je te donne mon passé qui n'est pas glorieux, mon présent qui ne représente peut-être pas grand-chose, et je te donne mon avenir pour que tu fasses de moi ce que tu voudras. Je te reconnais comme mon sauveur. Je te reconnais comme le seul et l'unique sauveur. Je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon unique et seul Seigneur. Merci de me pardonner et de me recevoir auprès de toi. J'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Simplement saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Bonjour à la sœur Bernadette. Bonjour à la sœur Nancy. Bonjour à Charlotte, Babette, sœur Teresa. Bonjour Tatiana. Bonjour Maggie. Bonjour Daniel. Là, c'est Daniel Long. Bonjour à la sœur Adriana. Bonjour à Chantal et à Léo. Bonjour à Ramon, à Evelyne. Bonjour à Lucie. Et je crois que c'est tout pour ce matin. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain matin. Ce qu'on va étudier demain, c'est le terme « captif ». Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs. Donc, on s'arrête sur ce terme-là demain matin. D'ici là, sonnez bien de la trompette. Soyez des sentinelles. Faites-le avec passion. C'est le message le plus important qui pouvait être confié à des sentinelles. Le message le plus important qui pourrait être partagé avec nos contemporains. Alors que Dieu vous bénisse et puis bonne journée à tous. On se retrouve demain matin. Au revoir tout le monde.